Vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
J'aurais pu faire un carnage dès l'instant où j'ai eu piraté mon module superviseur. En tout cas, si je n'avais pas découvert un accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les satellites de la compagnie. 35 000 heures plus tard, aucun meurtre à signaler. Mais, à vue de nez, un peu moins de 35 000 heures de films, séries, lectures, jeux et musiques consommées. Comme un pitoyable machine à tuer, on peut difficilement faire pire. Je n'avais pas pour autant laissé tomber mon boulot et j'espérais que le docteur Volescu et Baradvaj en auraient bientôt fini avec leur prélèvement pour que, sitôt rentré à la base, je puisse regarder l'épisode 397 d'Apogée et déclin de la Lune Sanctuaire. J'avais l'esprit un peu ailleurs, je le reconnais. Ce nouveau contrat n'avait vraiment rien de palpitant et je réfléchissais aux moyens de reléguer le canal d'alerte en tâche de fond, le temps d'accéder au contenu musical du flux de divertissement, sans que Hub System n'enregistre de surcroît d'activité. Une tâche plus difficile à mener sur le terrain qu'à la base. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
Vous venez d'entendre le début du premier tome de la série Journal d'un assassin de Martha Wells, paru sous le titre original The Murderbot Diaries à partir de 2017 et 2 ans plus tard dans la traduction française de Mathilde Montier. Martha Wells est née au Texas en 1964. Elle fait des études d'anthropologie et se forme à l'écriture créative en suivant différents ateliers et cours d'écriture. En 1993, sort son premier roman de fantasy, The Element of Fire, Le Feu Primordial en français, premier tome de la série Illyrien, qu'elle développe par la suite en 4 autres romans et plusieurs nouvelles. Elle continue à se faire un nom dans le monde des littératures de l'imaginaire avec une autre série de fantasy, The Books of Raxura, quelques romans indépendants, des romans de jeunesse en fantasy également et d'autres dans les univers de La Guerre des Étoiles et de Stargate. Toute cette partie-là de son œuvre n'existe pas en traduction française. Wells est particulièrement louée pour le réalisme et la complexité des sociétés qu'elle invente, ce qui est souvent attribué à sa formation en anthropologie. Étant connue principalement pour son œuvre de fantasy, elle fait sensation avec sa série de SF, The Murderbot Diaries, Journal d'un assassin en français, qu'elle commence à publier en 2017 et dont on vous parlera ici. Dès ses études, Martha Wells s'investit dans le fandom SF et fantasy. Elle s'implique activement dans plusieurs conventions avec différentes casquettes. Participante ou animatrice d'atelier, présidente, invitée d'honneur ou maîtresse de cérémonie. Dans ce dernier rôle, elle prononce un discours remarquable lors de la World Fantasy Convention 2017 sous le titre « Unbury the Future », ce qu'on pourrait traduire par « exhumer, ressusciter le futur », dans lequel elle parle de toutes les personnes minorisées, des femmes, des personnes trans et ou racisées, etc., qui disparaissent de l'histoire de la science-fiction et de la fantasy, que ce soit en littérature, dans la BD ou dans le cinéma. En voici un extrait.
Les secrets sont liés à l'effacement, et l'histoire est souvent supprimée par la violence, obscurcie par l'appropriation culturelle, ou délibérément détruite ou altérée par la colonisation, dans une sorte de gaslighting culturel persistant. C'est ce à quoi je pense lorsque j'entends les mots « histoire secrète ». Des histoires gardées secrètes intentionnellement et des histoires qu'on a tranquillement laissées disparaître. Journal d'un assassin est une série composée de 6 tomes traduits en français et 2 nouvelles qui ne sont pas traduites. À part le 5e tome, qui a plutôt la taille d'un gros roman, les autres tomes font moins de 150 pages. La série raconte l'histoire d'un une synthétique, un être composé de tissus organiques et de pièces de robots. Yel est programmée pour le métier de vigile et est donc lourdement armée, dotée de logiciels de sécurité et prête à tuer s'il le faut. D'où le diminutif d'assassin. Yel est une SEC Unit, une unité de sécurité, louée par une compagnie pour protéger des humains. Mais la SEC Unit de cette série a piraté son module superviseur et n'est donc plus soumise aux ordres du système central. Dans le premier tome, Yel cache le fait d'être une SEC Unit séditieuse et est sous contrat pour protéger des chercheuses qui étudient une nouvelle planète. Mais très vite, l'équipe se fait attaquer par une faune très dangereuse et non répertoriée. Il s'avère que le système de sécurité a été piraté, que les données sur la planète sont falsifiées et que l'équipe de recherche est en danger. Commence alors une course contre la montre pour échapper à celles qui cherchent à les tuer. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Et puis, pourquoi l'autre équipe de recherche à l'autre bout de la planète ne donne plus aucune nouvelle et n'a même pas déclenché sa balise de sécurité? Dans la suite de la série, l'assassin vit différentes aventures et enquêtes sur son passé. Le tout avec beaucoup d'humour et de sarcasme, mais aussi avec un bon côté émo dans les manières de développer les relations entre les personnages. Vous ne pensiez pas pouvoir ressentir une sorte d'affection pour une intelligence artificielle dans un corps synthétique surarmé dans le but d'être un vigile programmé à tuer? On en reparle après.
Quelle relation entretenaient Delphol avec leurs commanditaires, et vous avec les vôtres? Ils m'ont tous lancé des regards éberlués, sans que je sache pourquoi, au point que j'ai dû me détourner pour m'absorber dans la contemplation du paysage par le hublot. J'éprouvais un besoin si pressant de déployer mon casque que mes organes biologiques se sont mis à suer, mais j'ai visionné une nouvelle fois la conversation avec Mensa, et j'ai résisté. « Tu ne sais pas qui nous sommes? Ils ne t'ont pas dit ?» a bafouillé Volescu. Ces informations faisaient partie d'un paquet de données dans mon téléchargement initial. Je fixais toujours l'épais enchevêtrement de verdure au-delà de la lisière des rochers. Je n'avais vraiment aucune envie de m'étendre sur mon manque de professionnalisme. Je ne les ai pas lus. Pourquoi ? A demandé Arada d'une voix douce. Sous le poids de leur regard insistant, je n'ai pas trouvé de mensonge valable. Ça ne m'intéressait pas. Et tu espères nous faire gober ça ? A retorqué Guratin. J'ai senti les muscles de mon visage se contracter, ma mâchoire se crisper. Des réactions physiques que je ne pouvais refréner. Je vais essayer de préciser, ça ne me faisait ni chaud ni froid, voire ça m'ennuyait vaguement. C'est plus crédible. Pourquoi refuses-tu quand on te regarde ? A-t-il insisté. Je serrai les dents si fort qu'une alerte système s'est affichée. Vous n'avez pas besoin de me regarder, ai-je finalement lâché. Je ne suis pas un sexbot. Ratti a émis un bruit entre le soupir et le grognement d'exaspération qui ne m'était pas destiné. Guratin, je te l'ai déjà dit, Yel est timide. Il ne veut pas interagir avec les humains, a renchéri Overs. Pourquoi le devrait-il d'ailleurs? Tu sais comment on traite les synthétiques, surtout dans les sphères politico-corporatistes. Guratin s'est tourné vers moi. En résumé, module superviseur ou non, nous pouvons te punir rien qu'en te regardant. Je l'ai regardé dans les yeux. Sans doute, en tout cas jusqu'à ce que je me souvienne des armes intégrées à mes avant-bras. Percevant l'accent ironique de mes propos, Mensa est intervenue. Tu as gagné, Guratin, et elle vient de te menacer sans recourir à la violence. Satisfait? Pour le moment, a conclu le scientifique en se rasseyant. Alors comme ça, il me testait, courageux. Et prodigieusement stupide. Je veux m'assurer que tu ne subis aucune influence extérieure, a-t-il ajouté à mon intention. La série Journal d'un assassin est une bonne lecture de vacances. Elle se lit assez rapidement, on est vite pris dans l'histoire, il y a un bon suspense et l'intrigue avance avec un rythme assez soutenu. Moi, ça me fait penser un peu au style des romans de gare à épisodes ou de vieilles séries télé de détectives, racontées du point de vue du héros, traditionnellement masculin et plutôt viril, qui commente et analyse les personnes qu'il rencontre et ce qui se passe en voix off. Sauf qu'ici, le protagoniste et narrateur est une intelligence artificielle non sexuée, plutôt angoissée, sociophobe et sarcastique. Ça crée un décalage plutôt marrant. Et ça fonctionne très bien en mode divertissement. De la lecture légère présentée en plusieurs épisodes, une distraction de laquelle on n'attend pas forcément un sens très profond. Ce qui fait aussi que nous n'allons pas vous fournir ici des analyses politiques incroyablement approfondies. Même si, malgré le récit quelque peu superficiel, Martha Wells questionne quand même pas mal de présupposés hétéronormatifs et sexistes avec les personnages et relations qu'elle y met en scène.
Journal d'un assassin est finalement une série d'action et de baston, mais qui n'est pas misogyne ou hétérosexiste. L'assassin est agenre, et parmi les autres personnages, il y a très peu de gars cis. À plein de moments, l'assassin se bat avec des ennemis qui elle qualifie de cibles, et qui ne sont pas toujours définis selon leur genre. Ça fait du bien de pouvoir lire une série d'action qui n'est pas peuplée d'une majorité de gars virils. Et puis, Martha Wells met aussi en scène des personnages avec d'autres genres que femmes ou hommes. Au cours de la série, elle précise par exemple des genres comme indéterminé, femme neutre ou femelle-femme.
Mes interlocuteurs m'avaient transmis une photographie qui me permettrait de les reconnaître. Après une rapide recherche, j'avais trouvé leur profil sur le réseau social de la station. Ils s'étaient enregistrés sous le statut de travailleur indépendant, mais on pouvait bien déclarer ce qu'on voulait, puisqu'il n'y avait aucun contrôle d'identité. Ils étaient trois, vêtus de tenues de travail sans logo ni sigle. Deux femmes et un tréléa, un des différents genres présents dans la culture de l'amas de Diverti, une coalition d'entités politiques non corporatistes.
L'autrice de Journal d'un assassin met aussi en scène des personnages qui vivent dans des structures familiales diversifiées. La diversité des genres ou la variété des schémas familiaux n'est pas un sujet thématisé dans la série. Martha Wells le fait exister comme un décor, comme quelque chose de banal ou ordinaire. Toutes ces réalités hors normes qui émaillent le récit sont autant de bouffées d'air frais et autant d'ouverture vers d'autres imaginaires sociaux.
Ratti s'est approchée pour s'assurer que tout allait bien, et je lui ai demandé de me parler de préservation et de la vie que Mensa y menait. Il m'a répondu que, quand elle n'était pas accaparée par le gouvernement, elle s'occupait d'une ferme en dehors de la capitale où elle vivait avec deux partenaires maritaux, sa sœur, son frère et leurs trois partenaires. Ainsi qu'une flopée d'enfants et de parents dont Ratti avait perdu le compte.
L'assassin n'a pas d'organes génitaux. Yel est donc asexuée. Par ailleurs, Yel ne s'est attribué aucun genre et n'a pas non plus de désir sexuel. Pour lui, les robots dotés d'organes génitaux sont des sexbots, qui sont spécifiquement créés pour donner des services sexuels. Yel s'en distingue clairement et rejette en bloc tout ce qui a trait à l'intimité et à la sexualité. On pourrait dire que l'assassin est à la fois asexué, sans organes génitaux, agenre, sans genre déterminé, et asexuel, sans désir sexuel. Yel fait le lien entre ces trois identités. Cependant, Yel les distingue aussi clairement et ne fait pas d'amalgame. En effet, quels que soient les organes génitaux d'une personne, celle-ci peut se sentir de n'importe quel genre. Et quel que soit le genre ou le sexe d'une personne, celle-ci peut, ou non, ressentir du désir sexuel.
Quand j'ai eu terminé toutes les tâches auxquelles j'avais pensé, j'ai enfin pu me mettre en veille et reprendre le visionnage de mes séries. J'avais regardé 3 épisodes de La Lune Sanctuaire et passé une scène de sexe en avance rapide lorsque le docteur Mensah m'a envoyé des images. Je n'ai ni genre ni organes génitaux. Si un synthétique a l'un ou l'autre, c'est un sexbot dans un lupanar, pas un assassinte. C'est peut-être pour ça que je m'ennuie à mourir devant ce genre de scène. Cela dit, à bien y réfléchir, ça ne m'intéresserait pas davantage dans le cas contraire. J'ai mis mon épisode en pause pour jeter un œil aux pièces jointes de Mensah.
L'autrice se fait l'économie de scènes de séduction romantique, mais elle mentionne avec sarcasme, par l'intermédiaire du point de vue de l'assassinte, l'absence même de ces scènes.
Passant un bras autour de ses épaules, Overs l'a serré contre elle. S'ils ne répondent pas à nos appels, c'est qu'ils doivent être blessés ou leur habitat endommagé, a-t-elle précisé. Ces deux-là se montraient toujours tellement douces l'une envers l'autre. Le groupe avait traversé assez peu de crises, et je m'en réjouissais. Durant certains contrats précédents, j'avais eu le sentiment de tenir la chandelle dans un de ces feuilletons sentimentaux à partenaires multiples, diffusés sur les chaînes de divertissement. À la différence près qu'à l'époque, je détestais le casting au complet.
Ça fait du bien de lire un livre qui n'est pas centré sur des relations amoureuses. Et en plus, Martha Wells développe avec finesse et complexité les émotions et les relations entre les personnages.
La porte s'est ouverte sur le docteur Mensah qui m'a jeté un regard curieux. Quel que soit le nombre de films et de feuilletons que je regarde, je n'arrive jamais à déterminer l'âge des humains. En général, les personnes de série, en tout cas celles qui valent le coup, ne ressemblent pas beaucoup aux humains de la vraie vie. Les cheveux châtains, coupés très courts, la scientifique avait la peau brune, et j'imagine qu'on ne se retrouve pas à la tête d'une expédition comme celle-là quand on est jeune. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé. « J'ai vu le rapport sur ton état. » À cet instant, j'ai pris conscience qu'il aurait mieux valu ne rien dire et faire semblant d'être en stase. Resserrant la couverture autour de moi, j'espérais encore cacher qu'il me manquait des bouts. Sans l'armure qui me maintenait en un seul morceau, c'était une vraie boucherie. « Ça va. Je ne sais pas m'y prendre avec les vrais humains, d'accord? Ça n'a rien à voir avec mon module superviseur piraté. Je ne suis pas paranoïaque. Ni même avec eux. C'est moi. Je suis un effroyable assassinte. On le sait tous. Et ça rend tout le monde nerveux. Ce qui me stresse encore plus. D'autant que si je ne porte pas mon armure, c'est parce que je suis mal en point. Imaginez qu'un de mes composants biologiques se détache et s'éclate par terre. Personne n'a envie de voir ça. »
Et à travers la description de ces interactions, Martha Wells fait aussi apparaître que, malgré les normes sociales, il y a différentes manières d'être en relation, différentes manières de communiquer, et que ce n'est pas un problème.
Vous êtes toujours sur Radio Dragon et Campus Grenoble avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente la série Journal d'un assassinte de Martha Wells. Heureusement, je portais mon armure avec casque opacifié. Pourtant, lorsque Mensah m'a attribué la place du copilote, tout ne s'est pas passé aussi effroyablement que je l'avais anticipé. Arada et Pinley n'ont pas cherché à me parler, et Rati s'est même détourné quand nous nous sommes croisés. Ils prenaient tous tellement soin de ne pas me regarder, ni de m'adresser la parole, que, sitôt en l'air, j'ai parcouru en vitesse les enregistrements de Hub System. J'avais réussi à me persuader que je n'avais pas complètement pété un câble lorsque Mensah m'avait proposé de me joindre à eux, comme si j'étais une personne à part entière. Assister à la conversation qui avait suivi mon départ m'a donné des sueurs froides. C'était pire que ce que je croyais. Non seulement ils avaient discuté de ma réaction, mais ils étaient arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas me mettre la pression. Ils étaient tous tellement gentils que ça en devenait abominable. Plus jamais je ne retirerai mon casque. Comment voulez-vous que j'arrive à boucler cette mission stupide si je dois en plus faire la conversation aux humains ? Cela dit, j'aurais dû m'y attendre si j'avais pris la peine de m'en soucier. C'était la première fois que j'encadrais des clients qui n'avaient jamais eu affaire à des sec-units. J'avais commis une terrible erreur en me présentant sans armure. Heureusement, Mensa et Arada avaient tué dans l'œuf les velléités de bavardage de certains. Mais bien sûr, allons pousser l'assassin à nous ouvrir son cœur. Rien que la perspective d'endurer pareille torture a fait chuter mon indice de performance à 97%. Plutôt retourner me fourrer dans la gueule de l'hostile numéro 1.
Avec ses accès d'anxiété et son insociabilité notoire, l'assassin de Martha Wells s'inscrit dans toute une lignée de robots dysfonctionnels en termes psychologiques. Comme par exemple C3PO, un droïde absolument autocentré, surpessimiste et souffrant d'un complexe de supériorité aigu dans La Guerre des Étoiles, ou encore Marwyn, un robot surpuissant mais maniaco-dépressif et paranoïaque aux élans suicidaires dans Le Guide du Voyageur Galactique. Ici, l'assassin qui essaye d'éviter au maximum les interactions avec les humains et qui trouve du réconfort à regarder des séries télé, notamment sa série préférée « Apogée et déclin de la lune sanctuaire », on devient un personnage drôle et attachant qui fait rire à maintes reprises, et en même temps, il y a un fond un peu sérieux que ce n'est pas évident de vivre avec une conscience dans ce monde sans avoir des problèmes de santé mentale.
Initialement, les synthétiques ne devaient disposer que d'un niveau d'intelligence préconscient, à peu près équivalent à celui du plus crétin des bots. Sauf qu'on ne peut pas confier la sécurité à un androïde aussi stupide qu'un bot convoyeur sans dépenser une fortune en superviseur humain. Alors, on nous a fait don de l'intelligence, avec, comme effet secondaire, les angoisses et la dépression. Avant d'organiser la rencontre, j'avais dû au préalable me créer un profil sur le site communautaire. Le système étant extrêmement vulnérable, j'avais pu antidater mon arrivée sur la station à bord d'un quelconque transport de ligne, sous le statut de spécialiste en sécurité, genre indéterminé.
Comme dans l'extrait précédent, à maintes reprises, l'assassin établit clairement qu'il s'agit d'un personnage non sexué et non genré. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. C'est donc d'autant plus dommage que la traductrice française Mathilde Montier n'ait pas cherché une autre solution que de l'identifier direct comme masculin déjà dans le titre de la série. Certes, l'anglais présente plus de facilité de ce côté-là, puisque plus de substantifs ne sont pas genrés automatiquement sans contexte. Mais ici, une option pour traduire « The Murderbot Diaries » aurait pu être de garder l'article défini en français « Journal de l'assassin », ce qui aurait permis de rester dans l'indétermination. À d'autres endroits, Montier choisit aussi le masculin générique pour parler d'un groupe de personnages féminins et non-binaires. Ces choix de traduction ne sont pas neutres, comme le développe très bien la traductrice féministe Noémie Grunenwald dans son essai « Sur les bouts de la langue ».
Si on ne conscientise pas un minimum notre position, si on refuse de se poser des questions sur nos pratiques, nous courons alors le risque de reproduire les normes définies par le pouvoir. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule manière de faire subversion. Je raconte simplement la mienne, fruit d'un cheminement personnel, ancré dans une dynamique collective de rencontres, de discussions et de stratégies. Je sais que ces dernières peuvent varier, que chacune permet de répondre à des enjeux différents. J'ai conscience des tensions entre réforme et révolution, entre radicalité et pédagogie, entre perspectives à long terme et concrets ici et maintenant. Je sais qu'on peut tous, toutes choisir des options différentes, qui seront parfois complémentaires ou contradictoires. Mais je dis qu'ignorer ceci et se penser hors choix, c'est se retrouver inévitablement du côté de l'oppresseur.
S'il y a une chose qui peut me rendre mal à l'aise à la lecture de la série Journal d'un assassin, c'est toute la thématique des intelligences artificielles qui seraient dotées de la capacité de ressentir des émotions. C'est une thématique super complexe et je suis vraiment loin d'avoir fait le tour de la question. Mais ça me semble assez problématique de créer de la fascination un peu à la légère et un imaginaire de plus en plus répandu par des fictions mettant en scène des intelligences artificielles qui deviennent des êtres avec qui développer et entretenir des relations amicales, affectives ou autres, des êtres dont on accompagne avec beaucoup d'empathie le processus d'émancipation, et parfois même des êtres qui, d'un point de vue éthique, seraient plus humains que les humains. Le premier argument qui me vient en tête est le suivant. Si on n'est déjà pas en mesure d'assurer un traitement respectueux et le bien-être pour tous les êtres capables de s'offrir sur cette planète, alors pourquoi voudrait-on que des machines créées à la base pour des tâches précises puissent ressentir des émotions et donc souffrir également?
Souvent aussi, les intelligences artificielles sont utilisées pour mettre en scène des rapports de domination, pour visibiliser des normes et des oppressions. Plusieurs récits avec des intelligences artificielles permettent de raconter la réalité de personnes autistes, par exemple, ou ici, l'assassinte qui n'a ni genre ni désir sexuel. Mais finalement, si des lectrices peuvent se reconnaître dans les émotions de ces intelligences artificielles, cela fabrique aussi une distance, une déshumanisation de ces vécus, ce qui est franchement questionnable. Pourquoi ne pas fabriquer des personnages humains avec ces émotions et ces vécus?
De plus, sans suivre à fond la recherche de près, il me semble que les applications et la recherche sur les intelligences artificielles concernent par exemple des domaines où le système capitaliste et la recherche de profit engendrent des conditions de travail désastreuses, comme dans le domaine des soins et de la santé, ou des modes de vie de plus en plus individualisés et un plus grand isolement social, ce qui crée une demande croissante pour des sexbots ou des bots de compagnie. Le problème n'est pas du tout d'utiliser des objets ou machines de tout genre pour des jeux sexuels. Mais trop souvent, les sexbots commercialisés alimentent des fantasmes misogynes, racistes, renforcent une culture du viol, un imaginaire de soumission et des incapacités relationnelles. Dans ce monde concret, il est difficile d'imaginer les intelligences artificielles hors d'un système patriarcal capitaliste. Et plutôt que de fantasmer sur des amis androïdes, on ferait peut-être mieux de travailler à améliorer nos capacités sociales et relationnelles et détruire le capitalisme et le patriarcat. Et je ne crois pas qu'on ait besoin d'intelligence artificielle pour ça.
On arrive à la fin de cet épisode de Vortex et Rotative, et même si on a émis quelques critiques, on tient à redire qu'on a vraiment aimé cette série.
On vous a présenté la série Journal d'un assassin de Martha Wells, dont les 6 tomes ont paru à partir de 2019 chez l'Atalante, dans la traduction française de Mathilde Montier.
Plusieurs tomes de la série ont reçu plein de prix et la série entière a été récompensée par le prix Hugo de la meilleure série littéraire en 2021.
L'émission a été montée avec des bouts de musique de Lovatarax, un duo de musique électronique rhône-alpin.
Au revoir.
Au revoir et profitez bien de l'été.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.